à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Le projet de référendum d'initiative partagée contre la privatisation des aéroports de Paris. Les sages valident, c'est un revers pour l'exécutif, mais le chemin est encore long avant d'envisager un éventuel vote. Emmanuel Macron cible le Rassemblement national. C'est une liste de déconstruction de l'Europe, dit le président. Je mettrai toute mon énergie pour qu'elle ne soit pas en tête. Emmanuel Macron qui peut méditer sur ce sondage. 3 jeunes Français sur 4 ne comptent pas aller voter le 26 mai. Les fonctionnaires de nouveau dans la rue aujourd'hui contre le projet de loi censé moderniser leur statut. Le procès France Télécom et l'audition aujourd'hui des inspecteurs du travail qui avaient pourtant tiré le signal d'alarme au moment des vagues de suicides. La pédophilie dans l'église, le pape va obliger légalement le clergé à signaler tous les abus sexuels. En foot, après 2 soirées exceptionnelles en Ligue des Champions, place à la Ligue Europa ce soir. En ce moment, on joue les demi-finales retour, c'est la mi-temps. Valence Arsenal, un but partout et Chelsea domine 1-0 sur son terrain face à Francfort. Tandis qu'à moins d'un mois du coup d'envoi du mondial féminin, les Bleus ont fait un premier entraînement en public en Bretagne. Côté météo, demain ça commence à s'arranger, sauf sur la façade atlantique, toujours sous les nuages et les averses. Averses qui deviendront orageuses près de la Garonne l'après-midi. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque jour à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview Echo avec Anne-Laure Jumet ce soir. Anne-Laure qui reçoit la directrice générale des enseignes Casino et Leader Price, Tina Schuller.
Europe 1.
C'est donc un coup de théâtre qui s'est produit cet après-midi et un revers pour l'exécutif. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert au projet de référendum d'initiative partagée, le RIP, déclenché par des parlementaires contre le projet de privatisation d'aéroports de Paris. C'est une décision inédite. Jean-Rémy Baudeau, si cette procédure allait jusqu'au bout, il pourrait y avoir un référendum sur l'avenir d'ADP.
Oui, Isabelle, vous avez raison de le dire, c'est inédit, d'autant que les conditions politiques de cette proposition de RIP le sont tout autant, puisque la proposition émane de 248 parlementaires de tous bords politiques. Leur but, faire capoter la privatisation d'ADP, qui est dans le projet de la loi Pacte de Bruno Le Maire. Leur projet, je cite, c'est affirmer le caractère de service public national des aéroports parisiens. Rappelons que cette initiative a été prise début avril, quand la question du référendum était dans toutes les têtes, sujet poussé notamment par les Gilets jaunes et une partie de la gauche.
Concrètement, Jean-Rémy, va-t-on voter pour privatiser ou non ADP ?
Non, Isabelle, les étapes sont encore nombreuses, très nombreuses. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a pour l'heure indiqué que la procédure était conforme à notre droit. Il va falloir que 10% du corps électoral signe une pétition. Ça représente quand même 4,7 millions de Français et ça devra être fait dans les 9 prochains mois. Ensuite seulement, si tous les critères sont corrects, le président pourra être tenu d'organiser un référendum et tout ça, ça nous mène à peu près à la mi-2020.
Il n'empêche que politiquement, c'est un coup dur pour le gouvernement.
Oui, c'est évidemment un très puissant revers pour l'exécutif. C'est un projet emblématique qui est sérieusement mis à mal. Le Conseil constitutionnel est même allé à l'encontre des réserves du gouvernement. Parmi les députés qui ont mené cette fronde, c'est évidemment la satisfaction ce soir. La socialiste Valérie Rabault parle d'une démarche historique, que c'est désormais aux citoyens de transformer l'essai. J'ai parlé à l'insoumis Éric Coquerel qui se félicite qu'un front anti-ADP, mais aussi un front anti-Macron ait pu se créer. Et puis on regardera quand même dans les prochaines heures, dans les prochains jours, les réactions dans l'opinion, la lutte contre la privatisation d'ADP. C'était devenu l'une des revendications des Gilets jaunes. Mais attention, on le rappelle tout de même, Isabelle, il ne s'agit que de la première étape vers un référendum. Près de 5 millions de signatures, ça n'est pas rien. La pétition climat n'a récolté que 2 millions de signatures. Et c'était déjà un record absolu en France.
Merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Notez que ce soir, Bercy prend acte mais précise qu'aucune décision ne sera prise concernant la privatisation d'aéroports de Paris durant le délai de la procédure. À 2 semaines des élections européennes, Emmanuel Macron s'est engagé davantage dans la campagne en se posant aujourd'hui en leader du camp de ceux qui veulent encore construire l'Europe face à la menace du nationalisme. Le président qui assiste au sommet informel à Sibiu en Roumanie, au pied des sommets enneigés des Carpates, et qui a clairement ciblé donc le Rassemblement national.
Je crois qu'il n'y a pas mystère pour dire que la liste du Rassemblement national, c'est une liste de déconstruction de l'Europe. Moi, je suis patriote, français et européen. Eux, ils sont nationalistes. C'est différent. Comme le disait François Mitterrand dans l'un de ses derniers discours, le nationalisme, c'est la guerre. Il y a 2 ans, le Rassemblement national, alors Front National, nous disait « 80% de mon projet dépend de la sortie de l'euro ». N'ayant pas su expliquer comment on sortait de l'euro, il a finalement décidé qu'il pouvait y rester. Mais son projet n'a pas changé. C'est le même. Moi, j'ai toujours pas compris. c'est un projet de destruction de nos acquis au sein de l'Union européenne comme de la zone euro. Donc c'est un projet de désunion. Eh bien, la désunion fait rarement la force. Et alors même qu'on voit une Chine de plus en plus forte, qu'on voit des États-Unis qui essaient d'imposer au reste du monde leur vue, je crois que nous avons besoin de tout, sauf d'avoir le Rassemblement national en tête.
Emmanuel Macron au micro d'Isabelle Horry, envoyée spéciale d'Europe 1 en Roumanie. Et la réponse de Marine Le Pen ce soir, il faut être cohérent, dit-elle. Si on met tout son poids dans la balance comme président de la République, si on transforme cette élection en référendum, alors il faut avoir l'honneur et la dignité de faire comme a fait le général de Gaulle, c'est-à-dire partir si on perd. Et puis à 2 semaines de ce scrutin européen, ce chiffre édifiant, on découvre que plus de 3 jeunes sur 4 ne comptent pas aller voter le 26 mai prochain, selon l'IFOP. Ça ne les intéresse pas. Frédéric Dabi est le directeur général adjoint de l'Institut de sondage.
Ces jeunes, au-delà de réponses un peu refuge, je n'ai pas le temps, je ne serai pas à Paris ou ailleurs ce week-end, c'est surtout une logique que j'appelle une logique de vanité du vote. Le sentiment que voter à ces élections est vain, ça ne changera pas la situation de ces jeunes, ça n'améliorera pas la vie dans la société. Tout se passe comme si les jeunes, mais aussi les Français, il ne faut pas oublier que dans nos enquêtes quotidiennes, il y a une majorité de Français qui déclarent ne pas vouloir voter le 26 mai prochain, ne voient pas l'intérêt de voter à une élection qui ne change pas le quotidien des Français, même si de plus en plus les jeunes ont le sentiment que sur des questions environnementales, c'est un sujet qui les passionne, ils sont à la pointe de la question du réchauffement climatique. Les solutions ne se trouvent plus à l'échelle de la France, mais à l'échelle européenne. C'est peut-être un levier pour favoriser la participation.
Frédéric Dabi de l'IFOP qui était l'invité du Grand Journal de Mathieu Béliard ce soir sur Europe 1. Plusieurs associations appelaient à un rassemblement ce soir sur le port du Havre pour empêcher le départ d'un navire saoudien venu chercher un chargement d'armes. Rassemblement soutenu par la France Insoumise et par le Parti Communiste. Des armes qui, d'après ces associations, pourraient être utilisées dans la guerre meurtrière menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Emmanuel Macron a réagi en assumant cette vente. Il assure avoir obtenu la garantie que ces équipements n'était pas utilisé contre des civils. Europe 1, il est 22h07 et les fonctionnaires ont donc de nouveau fait entendre leur voix aujourd'hui pour la 4e fois depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Grève et manifestations dans tout le pays contre le projet de loi censé moderniser leur statut et qui sera au menu de l'Assemblée nationale à partir de lundi. Ne touchez pas aux services publics, pouvait-on lire sur les banderoles. Et parmi les points qui fâchent, l'annonce d'un recours accru à des agents contractuels comme réponse à la nécessité pour l'administration de s'adapter aux besoins nouveaux des citoyens. Fausse bonne idée, réplique Alain, 55 ans, fonctionnaire à Bercy.
Quels que soient les gouvernements qui sont succédés, quelle que soit leur couleur politique, les fonctionnaires de Bercy se sont toujours adaptés. On est une des administrations les plus numériques, avec le site impots.gouv.fr notamment. Et donc l'adaptation, on a fait la démonstration en permanence. Donc dire qu'il est indispensable d'avoir des non-fonctionnaires pour que l'administration soit plus efficace et s'adapte plus facilement, c'est une hérésie. Le problème de ce qui est proposé là, c'est qu'actuellement, alors que la norme, c'est le fonctionnaire et la variable d'ajustement, c'est le contractuel, ça devient complètement inversé. Et pour nous, c'est pas pour rendre l'administration plus efficace, mais plutôt faire ce qui s'est fait, par exemple, à La Poste ou à France Télécom, déréglementer beaucoup et peut-être faire que les suppressions d'emplois passent plus facilement, sachant qu'eux-mêmes, à un moment donné, seront les premiers à être docilement invité à partir.
Alain, fonctionnaire à Bercy, il était au micro Europe 1 d'Olivier Samin. Leur union célébrée il y a seulement 4 mois avait créé un mastodonte de l'assurance en France. 4 mois plus tard, annonce ce soir du divorce entre AG2R La Mondiale et la Matmut. Le premier groupe de protection sociale français affirme ne pas partager les valeurs de l'assureur normand. La SNCF met en place une nouvelle politique tarifaire avec la promesse que tout sera beaucoup plus clair et beaucoup plus simple pour les usagers. 2 nouveaux abonnements, 3 tarifs. Seconde, première et business première pour les TGV classiques. Les billets Prums, eux, existent toujours pour ceux achetés très en avance. Avec maintenant, la nouveauté, c'est la possibilité de les échanger ou de se les faire rembourser. Et puis une carte d'abonnement unique déclinée, soit pour les jeunes, pour les seniors, pour le week-end ou pour les familles.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h09, c'est la suite de votre journal sur Europe 1 et le preneur d'otages de Blagnac a été mis en examen ce soir pour séquestration, menace de mort et violence avec arme. Il a été placé en détention provisoire. Ce jeune homme de 17 ans avait pris en otage 4 femmes dans un bar tabac avant de les relâcher et de se rendre avant-hier. La suite du procès France Télécom pour harcèlement moral avec cet après-midi les dépositions de ceux qui ont sonné plusieurs fois la sonnette d'alarme au moment de la vague de suicide chez les salariés. Chloé Triomphe, vous avez suivi cette troisième journée d'audience. Selon eux, aucune de ces alertes n'a été entendue par la direction.
Oui, c'est d'une voix calme, le ton posé, trahissant seulement par moments un profond désarroi que le représentant du syndicat Sud, Patrick Ackermann, a rappelé les différents signaux de malaise qu'il avait fait remonter à la direction.
En 2009, l'été 2009, où là on est à un suicide par semaine, oui, j'ai interpellé la direction. Prenez la parole, dites quelque chose. Là, c'est pas possible, il y a maintenant des jeunes de 32 ans qui se suicident. Il faut vraiment qu'il y ait une pause. Voilà. Donc ça a été dit, et la réponse, ça a été rien. Aucune réponse. J'entends la partie adverse qui, en gros, défendra l'idée que notre syndicat aurait été un comploteur. Je suis ébahi, sidéré. C'est vraiment une révision de l'histoire totale.
Une vision corroborée ensuite par l'inspectrice du travail qui a témoigné n'avoir jamais vu en 27 ans de carrière un dossier avec autant de témoignages écrits de salariés sur leur malaise au travail. Selon elle, le plan de réorganisation de la direction contenait en germe la possibilité pour les managers de permettre tous les agissements caractéristiques du harcèlement moral.
Chloé Triomphe qui suit ce procès, France Télécom pour Europe 1. Dans l'Ariège, la réclusion criminelle à perpétuité requise à l'encontre de Loïc Guéquière qui avait fauché et tué en 2016 un gendarme en tentant de fuir lors d'un contrôle routier. Le major Christian Ruizig avait été écrasé et traîné sur plusieurs mètres tout au long de son procès. L'accusé de 33 ans, délinquant multirécidiviste, n'a exprimé aucun regret. C'est un décret historique qui a été signé aujourd'hui par le pape François. Le chef de l'Église catholique veut obliger évêques, prêtres et religieux à signaler tout soupçon d'agression sexuelle ou bien de harcèlement et à dénoncer également toute couverture des faits par la hiérarchie de l'Église. Virginie Riva, vous êtes la spécialiste des questions religieuses à la rédaction d'Europe 1.
Oui, on attendait ce document depuis la fin du Congrès mondial sur la pédophilie en février dernier. Le pape l'avait promis, ça y est, il y a enfin une procédure claire à suivre et d'application universelle. Un texte marqué par deux grandes avancées, mais avec deux gros bémols. La première avancée, le pape instaure une obligation de signalement pour les prêtres, les religieux et les religieuses dès qu'il y a soupçon d'agression sexuelle sur mineurs ou sur personnes vulnérables. C'est une avancée, mais clairement, il n'y a aucune obligation de signalement aux autorités judiciaires des pays. Par ailleurs, le pape systématise un dispositif qui existe déjà, notamment en France. Tous les diocèses de la planète sont obligés d'ici à un an à mettre en place une cellule d'écoute pour que le public dépose des signalements. La deuxième grande avancée de ce texte, c'est que le pape instaure une obligation pour les prêtres et religieux de dénoncer toute couverture de faits de pédophilie par la hiérarchie. On peut imaginer théoriquement qu'un tel délit aurait pu empêcher l'affaire Barbarin. Je dis bien théoriquement, car rien n'est prévu, en revanche, sur l'idée d'un tribunal spécial qui aurait été en charge au Vatican de juger ces évêques qui n'auraient pas dénoncé les prêtres pédophiles. C'est le deuxième gros bémol.
Virginie Riva, ancienne correspondante d'Europe 1 à Rome. La mort d'un surfeur aujourd'hui tué par un requin au large de l'île de la Réunion. Un homme d'une trentaine d'années qui surfait avec des amis. Le requin lui a arraché la jambe, il n'a pas pu être sauvé. Juste avant cette attaque, la préfecture de la Réunion avait pourtant lancé un appel à la plus grande vigilance. Un drone a perturbé et même interrompu le trafic ce matin à l'aéroport de Francfort en Allemagne, l'un des plus grands d'Europe. Aperçu par plusieurs pilotes, il a empêché plus d'une centaine d'atterrissages et de décollages avant de disparaître mystérieusement. En tennis, Roger Federer a battu Gaël Monfils au tournoi de Madrid cet après-midi après avoir sauvé deux balles de match. Victoire en 3-7, 6-0, 4-6, 7-6. En foot, après deux soirées exceptionnelles en Ligue des Champions, hier et avant-hier, place à la Ligue Europa ce soir avec les demi-finales retour. Pour l'instant, Arsenal domine 2-1 sur le terrain de Valence et un but partout entre Chelsea et Francfort. Dans moins d'un mois, on vivra ensemble un autre grand moment, le Mondial de foot féminin qui, vous le savez, se jouera en France à partir du 7 juin. Les Bleus ont entamé aujourd'hui leur préparation par un entraînement ouvert au public en Bretagne, à Perros-Guirec, où, malgré une météo venteuse et froide, avec une température inférieure à 10 degrés, des fans sont quand même venus les soutenir et leur souhaiter bonne chance.
C'est la première fois, d'une part. J'ai déjà vu les hommes, mais les filles, non. Alors, c'est impressionnant. Et puis, ça nous fait plaisir. C'est un plus pour la France. J'espère qu'elles iront aussi loin que les garçons.
Ben, je suis tellement contente que j'ai envie de pleurer.
Oui, je suis contente. Bah, c'est bien parce que... Bah, après, c'est bien parce qu'on voit les joueuses en vrai et puis bah, c'est mieux qu'à la télé.
Bah, c'est une chance parce que là, on les voit en vrai, on a l'occasion d'être là, on a la chance d'être là. Du coup, c'est trop d'émotions. J'adore.
Vous allez regarder la Coupe du Monde, je suppose.
Ah bah oui.
Un pronostic pour les Françaises?
Bah,
moi, je dis
Non, on gagne, mais t'es sérieux, tu gagnes.
Voilà, des supporters des Bleus en pleine forme au micro européen de Julien Froment et ce mondial féminin de foot, on le suivra évidemment à partir du 7 juin sur Europe 1. Et puis notez qu'en handball, le PSG est sacré champion de France pour la 5e fois consécutive ce soir. Paris qui a battu Aix 29 à 20. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous. Hélène Morna, vous avez deux bonnes nouvelles et une moins bonne.
Alors la première bonne nouvelle, Isabelle, c'est qu'on est sur la fin des averses et des bourrasques qui ont donc balayé le pays entre hier soir et ce soir. Quelques résidus cependant pas bien méchants demain matin sur l'Alsace et la Franche-Comté avec des averses. Ailleurs, le ciel sera lumineux sur l'ensemble du pays, sauf sur la façade atlantique, là sous les nuages et les ondées, lesquelles vont d'ailleurs gagner la moitié ouest l'après-midi avec quelques orages dans le sud-ouest. Les pluies seront plus fréquentes sur la Bretagne et la Normandie. Et puis à l'est, le ciel restera clair avec les averses qui arriveront finalement en soirée entre les Ardennes et l'Auvergne. La mauvaise nouvelle, ce ne sont pas les pluies, on en a besoin. Non, la mauvaise nouvelle, c'est la suite. Cette petite perturbation va se réactiver samedi sur les régions de l'Est, générant des averses orageuses avec la grêle. Et ça, on n'en a pas du tout besoin entre la Champagne et le Bourgogne, pour ne pas dire Isabelle, entre le Champagne et le Bourgogne. Passons maintenant aux températures encore un peu faibles pour la saison au nord. Et ça monte bien au sud, avec quand même 24 à Toulouse et Avignon, 23 à Lyon et Marseille, 22 à Bordeaux et Bastia. 20 degrés, ce sera pour Montluçon et Annecy, 18 pour Poitiers et Strasbourg, 17 à Lille, à Paris, à Rouen et Nantes, 14 à Boulogne-sur-Mer et Brest. Et on termine donc par notre deuxième bonne nouvelle, le retour du soleil dimanche et ça va durer.
Vivement dimanche, la météo signée Hélène Morna.
Europe 1.
Et dans un instant, vous aurez tout sur la bourse avec Didier Abo de boursier.com. Juste avant, l'invité éco d'Anne-Laure Jumet qui reçoit ce soir la directrice générale des enseignes Casino et Leader Price, Tina Schuller. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h18 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse. Avec vous Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui continue d'évoluer au gré des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis.
Toujours encore. La tentative de rebond d'hier a tourné court. Du coup, le Dow Jones perd 0,54%. On limite la casse quand même. Ça perdait pas mal en début de séance. C'est remonté par la suite. 25 822 points sur le Dow Jones. Moins 0,54%. Le Nasdaq, moins 0,41%. 7 911 points et Wall Street effectivement continue d'évoluer au gré des déclarations des uns et des autres, en particulier de Donald Trump quand même, qui continue de souffler le chaud et le froid.
Et de tweeter frénétiquement.
Ah oui, ça n'arrête pas, heure par heure on suit tout ça, avec un possible accord commercial qui n'est pas exclu. Évidemment, les marchés restent sur la défensive. Pendant ce temps, les affaires continuent. Uber s'apprête à faire son entrée en bourse demain à $45 par action, ce qui donne quand même une valorisation record de plus de $80 milliards pour le groupe Uber. C'est quand même pas mal. Le pétrole remonte un petit peu au-dessus des $70, le Brent, $70.40. Et parmi les variations du jour, on a quand même quelques baisses du côté des valeurs de technologie, Intel en particulier, moins 5%, après des prévisions jugées prudentes à 3 ans par le groupe Intel, donc dans le secteur des puces informatiques. Apple aussi perd 2%, un peu plus, $200.50, moins 2,3%, ça revient un cran en arrière. Sur Amazon aussi, moins 0,9%, Netflix, moins 0,3%, Facebook, moins 0,4%. Pas vraiment de grosses variations ce soir. L'euro repasse légèrement au-dessus des 1,12 face au dollar. 1,12,20.
Et la bourse de Paris, Didier, a rechuté après sa tentative de rebond hier.
Là, c'est plus net, moins 2%, pratiquement moins 1,93% sur le CAC 40, 5 313 points. Effectivement, le petit rebond de la veille a été effacé largement. On a des valeurs qui sont reparties à la baisse assez lourdement, de grosses valeurs industrielles qui souffrent toujours des incertitudes commerciales au niveau mondial. ArcelorMittal cède 6%, alors que le premier producteur d'acier au monde a abaissé sa prévision de demande annuelle sur ses principaux marché. On a aussi Nexans, moins 6%, STM, moins 5%, ou Eramet. Et puis ADP cède aussi 5% après le feu vert du Conseil constitutionnel. Vous en parliez tout à l'heure au référendum, donc dans le cadre de la privatisation. Les banques reculent aussi. BNP, moins 3%, Natixis, moins 3%, Société Générale, moins 2%, Crédit Agricole, moins 4,5%.
Et puis, exception du jour, les valeurs défensives qui ont prudemment progressé.
Oui, on parle ici des valeurs qui servent de bouée de sauvetage quand les marchés tanguent. Par exemple, dans la santé, Sanofi, qui progresse légèrement de 0,5%. Dans l'alimentaire, l'alimentation collective, Sodexo, plus 0,5% aussi. On a des valeurs informatiques qui servent de refuge, comme Axway, plus 0,5%. Neurone, plus 2%. Group Open, plus 2% aussi. Sur les autres places financières, ça baisse partout. Moins 1,7% à Francfort, moins 2,3% à Bruxelles, moins 1,4% à Madrid, moins 1,8% à Milan et donc à Paris, moins 1,93%, 5 313 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hameau de Boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
Anne-Laure Jumet, vous recevez ce soir la directrice générale des enseignes Casino et Leader Price.
Bonsoir Tina Schuller.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale des enseignes Casino et Leader Price. Merci d'être avec nous ce soir. Vous venez de lancer un nouveau concept dans vos hypermarchés géants Casino. Des espaces identifiés en fait, hein, dédiés à des marques. Il y a la bijouterie par exemple avec Mathy et Pierry, des pièces détachées automobiles avec Oscaro. C'est quoi l'objectif en fait? C'est de faire revenir en magasin une clientèle qui avait un peu délaissé l'hypermarché?
En fait, tout simplement, il fallait se réinventer en hypermarché. Hein. Ça date, vous savez, donc nous, on a été quand même les premiers à réduire les surfaces en hypermarché. Tout simplement parce qu'on s'était rendu compte assez vite, grâce à l'observatoire que nous avons avec Cdiscount, qui fait partie du groupe, qu'il y avait vraiment des achats qui se feraient de plus en plus sur le net, et notamment en non-alimentaire. Donc on s'est dit à l'époque qu'il fallait déjà réduire les surfaces. C'est ce qu'on a fait. Et donc aussi... enrichir l'expérience d'achat. Donc, il fallait vraiment réfléchir à l'expérience d'achat des consommateurs pour leur donner toujours envie de venir en hypermarché. Donc, nous, on a lancé les corners et Cdiscount, justement, qui étaient déjà... Donc, on a fait rentrer le digital, fin 2017, donc 57 hypermarchés en corner Cdiscount. Et dernièrement, effectivement, nous faisons rentrer des marques de renom qui sont spécialisées dans des offres, dans des corners qu'on appelle shop-in-shop, voilà, pour donner
des
envie
boutiques
aux clients,
dans la boutique,
des
en fait,
boutiques dans la boutique pour donner envie aux clients de revenir en hypermarché.
Mais le paradoxe, et vous le disiez un petit peu, c'est que justement le non alimentaire décroît en hypermarché. Il y a une étude Nielsen là, parue récemment. Les hypermarchés ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 30% en 8 ans dans les produits non alimentaires. Donc c'est un pari que vous faites là en installant des marques qui ne sont pas dans l'alimentaire justement.
Exactement, c'est-à-dire que le pari, c'est effectivement les clients ont envie aussi de toucher. D'avoir du conseil aussi, parce que ça, les clients restent des êtres humains, donc ils ont envie aussi de conseils.
Oui, c'est pas juste des bijoux dans les rayons.
Voilà, exactement. Ils ont envie. Donc, ce qu'on peut apporter, nous, dans le physique, c'est tout cet aspect-là, c'est ce lien social et cette relation humaine qui fait qu'on va avoir du conseil. Et donc, le client a envie de ça. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir des spécialistes. Cdiscount, c'est le spécialiste. Donc, on a des spécialistes qui permettent justement aux clients de venir et d'avoir des spécialistes sur ces produits.
Ça veut dire qu'on est un petit peu comme le concept d'un grand magasin, c'est des vendeurs de la marque, là par exemple si on parle des bijoux Mathy ou Pierry, des vendeurs Mathy Pierry qui seront dans ces shop-in-shop.
Exactement, alors on a plusieurs formules. Alors, sur Mathy, ce sont des vendeurs de chez Mathy, sur les corners Cdiscount, ce sont des vendeurs de chez nous. Donc on a plusieurs formules.
Et vous voulez également vous lancer dans l'optique, hein, puisque vous allez développer des casinos optiques avec des, je crois, vraiment des spécialistes.
Exactement,
pour le coup,
donc on va être les premiers à lancer Casino Optique, hashtag optique, donc à Villeneuve-Loubet, dans le sud-est de la France, donc en semaine 21, donc c'est fin mai, donc on est incessamment sous peu, et effectivement avec des spécialistes, c'est-à-dire des personnes que nous avons embauchées, qui sont des spécialistes, qui ont été formés pour cela.
Vous avez parlé du digital il y a quelques instants. Vous avez récemment signé un partenariat avec Amazon.
Tout à fait.
Double partenariat. Des produits Casino vont être disponibles sur la plateforme. Et puis, vous allez avoir des casiers Amazon en magasin où on pourra retirer ses commandes. On ne peut pas se passer finalement aujourd'hui d'une alliance avec le géant du web?
C'est pas se passer je pense que ce n'est pas la question. La question, c'est toujours de répondre aux clients. Comme je disais avant, c'était le client qui s'adaptait à nous. Aujourd'hui, c'est nous qui devons nous adapter à lui. Et aujourd'hui, il est exigeant, il veut tout, partout, quand il veut, comme il veut. Et donc, nous, il faut qu'on y réponde. Et il s'avère qu'on a ce partenariat avec Amazon qui propose de mettre des lockers, enfin des petits casiers en français, dans nos magasins. Donc, 1000 points de vente seront concernés. Donc, 1000, c'est un réseau incroyable.
Alors, je vais vous parler d'un de vos concurrents, Carrefour. Récemment, le groupe a fixé un objectif ambitieux, hein, 95% de fruits et légumes français à l'horizon 2020. Est-ce que vous avez des objectifs similaires ?
On ne s'est pas fixé des objectifs de cette façon-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous, notre seul souci, c'est de vendre de la qualité. Hein, c'est vraiment de satisfaire la clientèle, de faire travailler français, enfin voilà, les entreprises françaises. Ça, c'est vraiment notre objectif.
Et alors, sur le bio, quels sont vos objectifs? Alors, on voit que ça se développe énormément dans toutes les grandes surfaces.
Exactement, ça se développe énormément. C'est une demande, pareil, il faut s'adapter. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer qu'en supermarché, donc les supermarchés Casino, nous sommes en train de les transformer. Nous allons doubler la surface du bio dans ces magasins-là. Donc aujourd'hui, j'ai déjà réimplanté un tiers du parc, donc 400 points de vente. Hein, donc j'ai déjà réimplanté un tiers du parc et ce sera 1000 références, donc 1000 produits bio en plus dans ces magasins.
Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de déséquilibrer le marché? On parlait des produits français il y a un instant. Est-ce que le marché bio français, les agriculteurs français sont aujourd'hui en mesure de répondre à cette demande incroyable qui émane maintenant des grandes surfaces?
Aujourd'hui, enfin, tout est fait pour justement y répondre parce que, et nous, et par ailleurs, il faut savoir que nous aidons des agriculteurs à développer le bio. Donc on est partenaire parce qu'effectivement, on ne doit pas être passif par rapport à ça. Il faut aider aussi l'agriculture et à ce titre-là, nous aidons des agriculteurs pour se développer dans le bio.
Alors justement, ça m'amène à la loi agriculture et alimentation, hein, une évolution récente dans votre secteur qui impose un certain nombre de choses. Notamment, vous avez dû relever le seuil minimum à partir duquel vous pouvez vendre des produits. Donc tous les produits d'appel de marques bien connues ont vu leur prix augmenter, hein, vous l'avez constaté, j'imagine, dans vos rayons, parce que c'est une obligation légale. À l'inverse, comment vous avez compensé ça pour le consommateur?
En fait, tout simplement, c'est que l'idée, c'est de faire vraiment toujours des animations, de faire en sorte que le client s'y retrouve. Donc nous, on n'a pas changé notre façon de faire vis-à-vis de notre consommateur, de telle manière que le consommateur s'y retrouve. Il y a des produits qui n'ont pas augmenté, d'autres produits ont baissé. Nous faisons encore plus d'animations, de telle manière que le pouvoir d'achat de nos clients soit préservé. Et aujourd'hui, nous faisons tout en termes de générosité. Donc, on raisonne, nous, générosité, et on fait en sorte que notre client s'y retrouve.
Merci beaucoup, Tina Schuller, de nous en avoir parlé ce soir sur Europe 1. Je vous rappelle que vous êtes directrice générale des enseignes Casino et Leader Price. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 22h20 pour l'invité éco.
On vous dit à demain. Merci beaucoup, Anne-Laure Jumet.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour se démarquer. Imprimer des timbres avec le logo de votre entreprise en toute simplicité.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Et la palme du titre revient au journal L'Opinion. ADP, Verebad, RIP pour Emmanuel Macron. On en parlait tout à l'heure dans votre journal. La validation par le Conseil constitutionnel du référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris. L'opposition gagne une nouvelle manche, écrit pour sa part Laura Bernier dans Les Échos. Les 248 élus de l'opposition ont franchi un deuxième obstacle en vue d'imposer ce référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'ADP dont ils ne veulent pas. Après avoir réussi à recueillir la signature d'un cinquième des parlementaires, ils ont obtenu cet après-midi le feu vert du Conseil constitutionnel pour poursuivre leur démarche. Ne leur reste plus désormais qu'à réunir la signature d'ici 9 mois d'un dixième du corps électoral, soit près de 4,7 millions d'électeurs. Difficile, mais pas impossible. Plus vert, tu meurs, écrit Florence Chédotal dans le journal La Montagne. On dirait bien que les élections européennes approchent. C'est parti pour la course au plus vert. On sait le citoyen européen qui se rend aux urnes, rare, mais surtout sensible à l'environnement. D'où ce désir fou de repeindre ses murs en vert et de chasser du CO2 en vert et contre tous. Et puis tout autre sujet, à la une de Libération, éducation nationale, la guerre des bobards, avec à la une le visage du ministre de l'Éducation encadré de petites bulles sur lesquelles on peut lire blablabla, blablabla. Bla. Depuis quelques mois, Jean-Michel Blanquer et les enseignants rivalisent d'intox autour des réformes du lycée et de l'école. Libération démêle demain matin le vrai du faux. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Très belle soirée à vous.
Merci, à tout à l'heure.